Réforme. Développement. Impact. Centre Zoé.
Comment va ton cœur? Comment va ton cœur? Notre passage de référence, si vous voulez déjà le chercher, ce sera Proverbe 4, 23. Et je mets maintenant en parallèle le psaume 23, parce que le Seigneur a donné une orientation à cette série qui va bien avec le psaume 23. Et ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois maintenant, que régulièrement on revient, on se retrouve ici, et ce même thème, cette parole « Comment va ton cœur ?» se présente et se pose à nous. Et derrière cette parole, derrière cette pensée, eh bien Dieu vient nous parler, Dieu vient nous rencontrer, et Dieu vient nous guérir, nous délivrer, nous restaurer. Et je crois que Dieu a opéré à travers toute cette série, tous les messages que nous avons eus. Il a opéré, il a produit du changement. Et on a déjà eu 7 messages, on est au 8e aujourd'hui. On a commencé avec un premier message, c'était « Votre cœur, votre vie ». Comme est votre cœur, telle est votre vie. Et c'est ce passage, Proverbe 4, 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ou bien jaillissent les sources de la vie. » Et on avait vu ensemble que dans le texte original, le mot qui est rendu par « source » veut dire « source », mais il veut dire aussi les limites, ou bien les frontières, ou bien le cadre. Et donc, à travers cette parole, on comprend que de l'état de notre cœur, va dépendre la limite, le cadre, les frontières de notre vie. C'est-à-dire que l'état de notre cœur, de notre être intérieur, où la vie de Dieu doit jaillir, ça c'est vrai, c'est le sens premier, eh bien cet état intérieur va aussi déterminer ce qui va rejaillir, ce qui va se manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que si notre être intérieur est en bon état, notre vie, notre contexte, notre cadre doit devenir conforme et être conforme à ce que Dieu dit de nous. Et bien souvent, notre environnement peut être non conforme à ce que nous croyons et savons être vrai. Et là, nous voyons qu'il y a un travail à faire à l'intérieur. Nous devons commencer par changer, par laisser notre cœur être travaillé, être restauré. Le deuxième message, c'était un diagnostic. Quel est l'état de ton cœur? Et on avait vu à travers la parole, et notamment la parabole des terrains, que nous pouvons avoir différents états de notre cœur. Et j'avais résumé en trois grands états. Le premier, c'est d'avoir un cœur dur. Et si on a un cœur trop dur, eh bien quand il y a des pressions, quand il se passe des choses, ce cœur-là risque de se casser facilement aussi. Et même si nous résistons longtemps, le jour où ça craque, c'est désastreux. Si nous avons un cœur trop mou, le problème c'est que à la moindre situation, à la moindre déception ou au moindre événement, eh bien notre cœur est basculé, chaviré dans tous les sens. Et donc ça, ce n'est pas non plus la bonne chose. Mais nous avons vu à travers la parole de Dieu que nous sommes appelés, supposés, à avoir un cœur doux, un cœur pur. En fait, la caractéristique du cœur pur, c'est qu'il se laisse modeler par Dieu. C'est un cœur qui s'appuie et qui se base sur la parole de Dieu. C'est un cœur qui est établi en Dieu, de telle sorte que ce ne sont plus les circonstances et les événements et même les émotions qui peuvent venir, qui vont déterminer son état. Mais en fait, c'est le fait d'être assis, établi en Christ, dans son héritage, dans ce qui est vrai, qui va faire que c'est maintenant l'état de ton cœur qui va déterminer tes circonstances. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est de ta foi, de ta vision, de ta confiance, de ta situation intérieure, oui, que va dépendre ce qui se passe autour de toi. Le troisième, c'était le traitement, ou bien le médicament. C'est la parole de Dieu. Et nous avions posé ce fondement indispensable, puisque toute la suite allait en dépendre. Nous avons vu comment la parole de Dieu agit comme un médicament, comment elle guérit, comment elle délivre. Hein. Numéro 4, c'était un cœur ouvert. Et là encore, il fallait pousser un peu plus en disant, mais ouvrez votre cœur. Et pour que la parole puisse agir et pour que Dieu puisse nous transformer et nous guérir à l'intérieur là où nous en avons besoin, eh bien, il nous faut avoir un cœur ouvert. Laissez Dieu agir, laissez Dieu voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exposez au Seigneur ce qui est là au plus profond de nous-mêmes pour qu'il puisse venir intervenir, agir et œuvrer à l'intérieur de nous. Et puis on était rentré dans quelques sujets un peu plus précis. Numéro 5, c'était traiter l'infériorité. Et on avait vu combien les circonstances de notre vie aussi et tant de choses peuvent venir nous donner cette impression, ce sentiment d'être toujours inférieur. toujours plus petit, toujours moins bien que les autres, toujours insuffisant. Et on a vu avec la parole de Dieu comment l'infériorité peut être traitée. Et comment Dieu, dans sa parole, apporte le traitement, le médicament, ce qu'il faut pour que l'infériorité soit écartée, qu'elle soit traitée. Et je crois que le Seigneur a travaillé là-dessus avec quelques-uns d'entre nous, n'est-ce pas? Et moi, c'est un domaine où Dieu devait travailler. Maintenant, ça va. Mais c'est quelque chose qui touche énormément de personnes. Et nous avons besoin de changer le disque, changer la cassette. Non, tu n'es pas celui qui ne pourra jamais rien faire. Non, tu n'es pas celui qu'on ne choisit jamais. Je sais que ça avait frappé tout le monde. Et j'étais heureux, je me suis senti moins seul quand je vous ai raconté cette histoire de quand j'étais plus petit et qu'il fallait choisir des copains pour faire une équipe. Vous êtes toujours le dernier que personne ne choisit et toutes ces choses-là. Et ça vous marque, mais merci Seigneur parce qu'il nous guérit. Et il nous enlève cette infériorité. Non, non, tu ne vaux pas moins que les autres. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu es précieux. Tu es mon chéri. Tu es ma chérie. Vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? C'est qu'on est tous son préféré. Ça, c'est fort. Hein. Vous savez, les humains peuvent avoir un ou une préférée, ou deux, trois préférés, mais pour Dieu, chacun est son préféré. Vous êtes son chouchou. Sa chouchou, son préféré. Et ça, c'est merveilleux. Numéro 6, on avait parlé du repos, ça coïncide avec les vacances, donc c'était pas mal. Mais de voir aussi que bien souvent notre cœur est agité. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de choses qui circulent et on n'a pas la paix. Et finalement, on n'arrive même plus à se reposer et on finit par accumuler la fatigue physique et finalement même la maladie physique. Mais là encore, la parole de Dieu apporte la réponse et nous procure du repos. Jésus a dit que si nous le suivons, nous trouverons le repos pour nos âmes. Et je crois qu'il y a peu de choses qui soient aussi précieuses que le repos à l'intérieur. Vous savez, on peut essayer de se reposer physiquement, on peut faire de la relaxation, on peut faire plein de choses, mais rien ne vaut le repos intérieur. Et ce repos, tant de gens le cherchent. Mais quelqu'un le donne, c'est Jésus, c'est Jésus. Et puis le numéro 7, c'était « ni délaisser, ni abandonner ». Et nous avions parlé de l'abandon, justement. Du fait que les gens ont pu laisser tomber, vous laisser tomber. Soit littéralement, évidemment, et cet exemple de Méphibosheth, ce dernier descendant de la famille de Saül, qui physiquement, on l'a laissé tomber, il en est resté handicapé toute sa vie. Mais au-delà de cette image, si souvent, quelqu'un nous a laissé tomber émotionnellement ou dans notre, dans nos émotions, dans nos engagements, quelqu'un a pu nous abandonner, nous laisser, ou plus que nous abandonner, ne jamais nous accueillir. Quelqu'un a pu ne pas vouloir de vous, etc. Et donc, c'est comme si on vous a laissé tomber et vous êtes resté handicapé toute votre vie. Peut-être pas des mains, peut-être pas des pieds, peut-être pas physiquement, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui toujours reste là comme un handicap et vous empêche d'être pleinement vous-même, de vous épanouir et d'être à l'aise avec les autres et de vous sentir accepté, de vous sentir digne. Et nous avons vu comment, à travers l'exemple de ce que Dieu a fait dans David, qui a recueilli ce Méphibosheth, qui l'a cherché pour lui faire du bien et le faire asseoir à la table du roi, eh bien c'est ce que le Père fait pour chacun de nous, d'une part, et Dieu aujourd'hui veut et va et a déjà suscité des personnes pour faire du bien à ses chéris que vous êtes, que nous sommes. Et on a donc parlé de tout ça et l'Esprit de Dieu encore a touché et nous a guéris si c'était nécessaire de l'abandon, du fait d'avoir été lâché en route et du fait d'avoir été laissé de côté. Et aujourd'hui, ce que je voudrais traiter encore avec vous dans ce numéro 8, c'est traiter culpabilité, accusation et honte. Culpabilité, accusation et honte. Et ça, c'est notre thème pour ce soir et je vais essayer de le traiter bien, mais vite. Parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais c'est bon de voir ce que le Seigneur veut nous dire et surtout ce qu'il veut faire. Et je crois que certaines personnes ici, et si ce n'est pas ici, c'est ceux qui auront l'occasion d'entendre ces enregistrements, ont besoin de traiter la culpabilité, l'accusation et la honte dans leur vie. Et je vais vous exposer un petit peu tout ça et vous allez voir que peut-être qu'on peut se dire « Non, ça va, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens en règle avec Dieu, tant mieux. » Vous allez voir qu'il y a des fois des formes très sournoises qui sont là et qui, consciemment ou inconsciemment, nous limitent tellement et nous bloquent tellement. Et je bénis Dieu pour cette parole qui vient maintenant et qui va produire l'effet qu'elle doit produire. Donc, numéro 1, ou premièrement, traiter la culpabilité. Premièrement, traiter la culpabilité. Alors, je vais vous donner un petit peu des définitions. Donc, aujourd'hui, j'ai des notes. Je suis très sérieux aujourd'hui. Je suis inspiré aussi, mais aujourd'hui, j'ai des notes. Fait que souvent, je bouge dans tous les sens et j'essaie d'être studieux pour vous donner les choses les meilleures possibles. Hein, parce que la parole de Dieu, c'est ce qui guérit, c'est ce qui délivre. C'est ça, c'est un truc, pardon, c'est une chose merveilleuse et puissante que j'ai découverte et que j'aime à partager. Parfois, nous pouvons rechercher la puissance, nous pouvons rechercher l'onction, nous pouvons rechercher quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous guérir, qui va nous libérer. Et en fait, si vous cherchez quelque chose, et plutôt quelqu'un, va toujours vous ramener à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est ce qui pose le fondement. La parole de Dieu, c'est là que vous allez trouver guérison, restauration, délivrance, paix, grâce. Et oui, l'onction, bien sûr, vient avec, mais l'onction passe et appuie la parole de Dieu. La présence et la puissance du Saint-Esprit s'appuient et confirment la parole de Dieu. Donc, on va poser la parole de Dieu, on va expliquer les choses. La culpabilité, qu'est-ce que c'est ? La culpabilité, c'est un sentiment de faute, avec une notion de devoir quelque chose et de responsabilité. C'est-à-dire que quand quelqu'un a la culpabilité en lui, il a le sentiment d'avoir fait une faute, ça va, mais il y a cette notion qu'on doit quelque chose à quelqu'un. On est redevable, il y a quelque chose qui est dû, et puis on est responsable de quelque chose. C'est ma faute. Je suis coupable. Et face à ce sentiment de culpabilité, eh bien on se sent souillé, inacceptable, d'une part dans nos relations, mais aussi et surtout, et terriblement, vis-à-vis de Dieu. La culpabilité nous rend impropre à nous approcher de Dieu, de notre point de vue, bien sûr. Et dans un sens, la culpabilité, c'est une chose qui peut être positive parce que c'est un fruit de notre conscience. C'est-à-dire que lorsque vous posez un acte qui n'est pas bon, il y a quelque chose en vous qui vous alerte, vous vous sentez coupable. Et donc là, ce qui doit se passer, on va le voir, c'est que vous vous repentez, vous êtes restauré et c'est terminé. Mais si cette culpabilité-là demeure et reste nourrie, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça ne devrait pas demeurer. Il y a un sentiment de culpabilité qui est entre guillemets normal. Vous avez fait une faute, quelque chose en vous vous dit là tu es coupable, vous vous repentez, mais ça doit être fini. Si la culpabilité demeure, si quelque chose continue encore d'être là, eh bien il va falloir faire quelque chose pour nous en débarrasser. Parce que ça vous pollue, ça vous enchaîne, ça vous retient. Vous allez constamment avoir l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Vous allez toujours avoir l'impression d'être responsable, que c'est votre faute, que vous avez un poids sur vos épaules. Vous vous sentez non seulement coupable d'une faute, mais vous finissez même par vous convaincre que vous êtes une faute. Et on va voir pourquoi ce déroulement, pourquoi culpabilité, accusation, honte. Parce que si la culpabilité et l'accusation sont des choses qui continuent d'opérer, d'être présentes en nous, elles vont renforcer, nourrir ce qu'on appelle la honte. Et c'est certainement la chose la plus subtile et en même temps la plus nocive qui puisse être présente dans notre vie. L'accusation, donc, dans un premier sens simple, est quelque chose, entre guillemets, de normal. Vous faites la mauvaise chose, vous vous sentez accusé, enfin la culpabilité, pardon, pas l'accusation, la culpabilité. Vous vous sentez coupable et c'est ce qui va vous conduire à la repentance. Mais ça ne doit pas rester, vous ne devez pas vous sentir coupable constamment, ni d'une manière prolongée. La parole nous dit que en Christ, nous pouvons naître de nouveau, être justifiés et être déclarés justes. 2 Corinthiens 5, 17, je vais un petit peu vite, hein, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand vous venez en Christ, que vous devenez une nouvelle personne, eh bien, le péché, la condamnation qui allait avec vous n'est plus. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Colossiens 3, 14 nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il l'a cloué à la croix, j'ai pas mis la bonne référence, peut-être tu vas le trouver pour nous, et qu'il l'a détruit en le clouant, et qu'il a livré les puissances publiquement en spectacle pour en leur enlevant pardon, leur capacité d'agir, parce que le péché a été résolu. Il a été porté une fois par Jésus, une fois pour toutes. Donc si vous naissez de nouveau, si vous avez une nouvelle nature, le péché a déjà été réglé. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Et il l'a cloué à la croix. Et nous avons chanté tout à l'heure du sang de Jésus. Vos péchés ont été réglés une fois pour toutes. Alors je sais que c'est compliqué pour notre tête, merci, c'était 2,14, mais c'est à recevoir dans notre cœur. Les péchés que j'ai commis aujourd'hui, j'espère que j'en ai pas commis, sinon ma conscience me le dira et j'aurai la solution. Mais les péchés que je commets maintenant, et même les péchés que quelqu'un commettra demain, ont déjà été réglés en Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est difficile pour nous, mais pourtant, c'est la vérité. Et nous devons l'accepter, la recevoir. Donc, lorsqu'un pécheur se repent, parce qu'il sent cette culpabilité, il est éclairé, il réalise qu'il est coupable envers Dieu, il se repent, les choses anciennes sont passées. Jésus a effacé ce qui devait le condamner et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et donc, il n'y a plus, Romains 8, verset 1, de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous n'avez plus à être condamné, vous n'avez plus à être coupable. Romains 3, 28 nous dit que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc non pas que la loi soit annulée, non pas qu'il faille plus faire de bonnes choses, mais c'est par la foi que nous sommes justifiés. Ce ne sont pas par nos œuvres, ce n'est même pas ce que nous faisons, c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes une nouvelle créature en Dieu et que nous commettons encore des péchés, eh bien, 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous rendre de nouveau purs, pour nous restaurer en lui. » Donc, la réponse à la culpabilité n'est pas très compliquée, en fait. Si vous vous sentez coupable parce que vous êtes séparé de Dieu, eh bien, entendez la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus a payé à votre place. Si vous reconnaissez votre incapacité à vous-même de devenir acceptable devant Dieu et d'être sauvé, eh bien, croyez à l'œuvre de Christ. Croyez qu'il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous, et vous pouvez alors vous repentir. Abandonnez vos voies pécheresses, vos manières de faire à vous et acceptez la solution de Dieu en Jésus-Christ, le salut. Là, vous naîtrez de nouveau, vous êtes recréé, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que les péchés que vous avez commis avant, c'est fini. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, 17, c'est Dieu qui parle, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Autrement dit, lorsque Dieu a effacé, lorsque Dieu nous a pardonné, libéré de nos péchés, il ne s'en souvient plus. Donc la culpabilité n'a pas à avoir de place. Dieu, lui, ne s'en souvient plus. Nous, parfois, on s'en souvient. Maintenant, s'en souvenir est une chose. La mémoire fait partie de notre nature humaine. Mais entre nous en souvenir et nous sentir coupables, il y a une grande différence. Et Dieu, lui, ne s'en souvient plus, il ne vous tient plus rigueur. Et d'ailleurs, la première épître de Jean, au chapitre 3, il nous a dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. C'est-à-dire que même si toi-même, à un moment, tu te dis, oui, mais j'ai fait telle chose, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ta pensée. Et si Dieu dit, je t'ai pardonné en Jésus-Christ et je ne m'en souviens plus, même si toi, tu t'en souviens et que tu ramènes ça devant Dieu, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que la condamnation et il connaît toutes choses. Donc la culpabilité, la plupart du temps, puisque le péché est enlevé, pourquoi elle est là? Eh bien, elle vient d'une certaine conscience du péché. On se rappelle qu'on a mal fait et on sait que ça ne va pas avec notre cadre de référence. On ne voulait pas faire le mal, on a mal fait et en fait on reste quand même prisonnier d'une culpabilité d'avoir mal fait alors qu'en réalité, ça a déjà été réglé, parce que Jésus l'a pris la première fois qu'on lui a demandé pardon. Ça a été associé à l'œuvre de la croix, et nous n'avons plus à être condamnés. J'ai bien aimé une des définitions que donnait Wikipédia. Alors des fois c'est bien Wikipédia, hein, c'est Internet, c'est pratique, mais il donnait une des variantes en disant que la culpabilité est un sentiment de faute, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Et ça m'a fait tilt, parce qu'en réalité, une fois que vous avez déposé votre faute sur Jésus, par la foi que vous vous repentez, elle n'existe plus. Mais la culpabilité est encore possible. Sauf que dorénavant, votre culpabilité s'appuie sur une faute imaginaire. Puisque Jésus, là, on l'a vu tout à l'heure, l'a éliminé en la clouant à la croix. Quand on élimine quelque chose, ça n'existe plus. Dieu ne s'en souvient plus. Et vous, vous vous sentez encore coupable de quelque chose qui n'est plus. Donc, la culpabilité, c'est quelque chose qui ne doit pas demeurer dans notre vie. Nous pouvons traiter la culpabilité en assainissant notre conscience en Christ. C'est-à-dire, on dépose notre péché. S'il y a une faute, on la reconnaît, on se repent, on est purifié. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se conforter dans notre statut de juste. Au-delà de ce que nous dit notre tête, au-delà de mes souvenirs, au-delà de mes émotions, je ne me sens peut-être pas pardonné, mais parce que j'ai confessé mon péché, j'ai été pardonné. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'amène ma tête et mon cœur à accepter, et que j'amène maintenant non plus la conscience de la faute commise, puisqu'elle a été effacée devant Dieu et elle a été supprimée par Christ, mais que je remplace cette conscience-là par une conscience nouvelle, la conscience du fait que je suis juste en Jésus-Christ, la conscience que je suis pardonné, la conscience que ce n'est pas par mes capacités que j'aurais pu le faire, mais que Jésus l'a fait à ma place. La conscience que ce n'est pas mes fautes qui me définissent devant Dieu, parce que si je les lui ai abandonnées, il les a complètement oubliées. Quand il te regarde, lui ne sait plus. Il veut dire, comment ça, Dieu ne sait plus, il sait tout. Oui, mais il choisit de ne plus se souvenir de tes péchés. Il le dit clairement dans sa parole. Et une fois que vous avez fait ça, arrêtez de vous enfermer dans une erreur passée, s'il vous plaît. Passez à autre chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui a fait une boulette, mais c'est bien pire qu'une boulette, qui a fait une grosse erreur. Et en plus, il était prévenu, c'est Pierre. Vous savez, Pierre, le disciple de Jésus, a fait beaucoup de choses bien, a dit beaucoup de choses bien, mais en même temps, il a fait beaucoup d'erreurs. Des fois, il était complètement à côté de la plaque. Un coup, par exemple, il reçoit la révélation, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Et Jésus dit, les disciples lui répondent, les uns disent que tu es un prophète, les autres disent ceci, cela. Et puis Pierre, il vient et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus le regarde et dit, ça Pierre, ouais, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc là, Pierre, il a marqué des points. Il y a une révélation, il était vraiment bien là où il fallait. Et quelques temps plus tard, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais c'est juste les versets suivants. Jésus annonce qu'il va être livré, qu'il va mourir. Et puis Pierre arrive brave, comme tout, il dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et là, Jésus se retourne et lui répond cette phrase célèbre, certes efficace dans d'autres circonstances, mais il va lui dire, arrière de moi Satan. Le même qui, quelques temps avant, on ne sait pas combien de temps, mais quelques temps avant, est félicité en disant, ça c'est le Père qui t'a révélé, juste un petit peu plus tard, il lui dit, arrière de moi Satan. Donc Pierre, des fois, réussit des choses, des fois moins, et chacun de nous, ça peut nous arriver, mais Pierre continuait de marcher avec Jésus. Pierre, lorsqu'il était dans la barque, dit au Seigneur, si c'est toi, appelle-moi, dis-moi de venir et je marcherai sur l'eau. Je lui dis, ok, viens. Et il y va, il fait quelques pas, tout va bien. Mais ensuite, il doute, de nouveau, il commence à couler. Jésus le rattrape. Pierre ne s'est pas arrêté pour autant de suivre Jésus. Il a fait des fautes, il a fait des erreurs, mais il est passé à autre chose. Et bien plus tard, il va se retrouver, Jésus est livré, est arrêté. Et Pierre est là dans la cour. Et déjà, il est dit qu'il suivait Jésus de loin. Et ensuite, il est là et les gens le reconnaissent. Ils lui disent, toi, tu étais avec cet homme-là. Non, je ne le connais pas. Deuxième fois. Mais toi, tu étais avec ce Jésus-là. Non, non, je ne le connais pas. Une troisième fois, quelqu'un d'autre passe. Dit, toi, là, tu étais avec ce Jésus. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a une des versions qui dit que Pierre, j'ai oublié l'expression, mais en gros, il a dit des gros mots, quoi. Hein. Il a injurié et il a dit non, arrêtez. Enfin, non, il n'en est rien. D'autres versions sont plus gentilles en disant qu'il s'est défendu, en disant que ce n'était pas le cas. Mais manifestement, il s'est même bien énervé. Il a fini par insulter les gens, de le laisser tranquille avec ça. Et juste après, le coq s'est mis à chanter. Et il vit Jésus passer. Et l'Écriture nous dit qu'en voyant Jésus, il se souvint des paroles du Maître qui lui avait dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. Et il est dit ensuite qu'il sortit et qu'il pleura amèrement. Et là, il avait quand même fait une grosse erreur. Et il avait péché, clairement, il était passé à côté. Mais pourtant, on va retrouver Pierre plus tard. Malgré cette trahison, on va retrouver Pierre. Et Jésus va amener Pierre à passer à autre chose. Et Jésus va remplacer cette trahison par un engagement en prenant soin du détail de lui poser trois fois une question. Trois fois, Pierre a renié Jésus. Trois fois, Jésus renouvelle son engagement, son appel et son amour envers Pierre en disant, Simon ou Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ne m'aime? Encore une fois, Simon, m'aimes-tu? Et encore, Simon, m'aimes-tu? Simon, on peut dire, non, c'est vrai, je t'ai trahi, c'est foutu pour moi. Non, il a dit, oui. Et à la fin, il dira, Seigneur, tu sais toute chose. À la fin, il ne savait peut-être plus trop quoi répondre, mais Seigneur va lui dire, paie mes brebis. Le gars qui vous a renié, là, tout à l'heure, vous lui donnez la responsabilité de paie vos brebis? Et quand vous regardez Pierre, plus tard, il a eu, entre autres, la responsabilité, le ministère d'annoncer l'évangile parmi les païens, c'est-à-dire grâce à, entre guillemets, à travers Pierre, nos ancêtres très lointains, bien sûr, ont reçu l'évangile qui, au départ, n'était annoncé que parmi les juifs. Passer à autre chose. Vous savez, j'imagine que Pierre, à chaque fois qu'il entendait un coq chanter, ça devait lui faire quelque chose. Et Et c'est comme si j'entends un coq chanter et l'Esprit de Dieu qui dit à quelqu'un, il y a des coqs qui chantent dans ta vie. Il y a des choses, quand tu les entends, quand tu les vois, quand tu passes à côté, ça te rappelle quelque chose que tu as fait. Et pourtant, tu t'es déjà repenti, tu as demandé pardon. Et le Père te dit, pour moi, c'est déjà réglé. Mais quand le coq chante, toi, tu t'en souviens. Mais cesse de te culpabiliser, cesse de t'accuser. C'est réglé. Je ne m'en souviens plus. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Numéro 2, l'accusation. Donc, premier point, culpabilité, c'est fait, accusation. L'accusation, c'est comme une voix ou une pression qui vous presse en vous et qui vous fait entendre et croire que vous êtes coupable. Et clairement, disons-le, l'accusation vient du diable qui veut vous éloigner de la vérité et de ce qui vous appartient en Christ. Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, 10. Il est écrit, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, etc. Et ici, on voit l'accusateur de nos frères, et les questions du diable, de Satan. Et les questions de ce qui va arriver, il est dit, il a été précipité, à la fin du verset, l'accusateur des frères. Donc il y a un accusateur. Quelqu'un qui est menteur. La Bible nous dit de lui que c'est aussi le menteur et même le père du mensonge. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui vous accuse, alors qu'il est menteur et père du mensonge, ne vous dit certainement pas des choses qui sont vraies. Et l'accusateur aime à vous raconter des histoires, à vous faire croire des choses qui ne sont pas pour vous accuser, pour vous maintenir sans cesse sous une pression en disant « c'est vrai, je ne vaux rien, c'est vrai, je suis coupable ». En fait, l'accusation vous pousse à la culpabilité et si ça continue, ça va vous maintenir dans la honte. Mais il est là à vous accuser, il témoigne, ça parle en vous. « T'es pas ci, t'es pas comme ça, t'as fait ci, t'es pas juste, t'es pas bien, t'es pas assez ça, t'es trop ça, t'es comme ci, t'es comme ça ». Mais la parole nous dit « il y a un accusateur, mais il y a un avocat ». Il y a un avocat. Alléluia. Il y a un avocat qui plaide en votre faveur, et il plaide en votre faveur par rapport à l'œuvre qu'il a lui-même accomplie à la croix. Waouh! Satan t'accuse sur des choses qui sont même pas vraies, qui sont exagérées, qui sont poussées à l'extrême, ou peut-être qu'il t'accuse sur des choses qui étaient vraies hier, mais qui n'existent plus, puisque nous avons vu que lorsque Dieu pardonne, il oublie, ça n'existe plus, Jésus l'élimine. Donc même si l'ennemi t'accuse, te répète des choses, te met des pensées, te met des voix en toi qui t'empêchent d'avancer, qui te rendent coupable, qui te bloquent, il y a quelqu'un d'autre qui parle, c'est l'avocat, Jésus. Jean 14, verset 26, il est dit du Saint-Esprit, d'une part, et après on verra pour Jésus, Jean 14, 26, il est dit une chose intéressante. Alors là encore, tout dépend de la version de la Bible que vous avez, mais dans le mot grec, il y a la signification claire. Il est dit le consolateur. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Et je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles, il y a beaucoup de Bibles qui disent le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que j'ai dit. Et en fait, ce mot-là, effectivement, il veut dire défenseur, avocat, celui qui plaide une cause. Donc il y a quelqu'un, le Saint-Esprit, qui plaide en vous, qui vous enseigne ce qui est vrai, que vous êtes juste, que vous êtes pardonné, que vous n'avez pas à recevoir cette accusation. Il plaide votre cause. Et 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Un Jean 2, verset 1, il a dit « Mes chers enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez point. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, ou bien un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Vous avez un avocat. Vous savez, dans le monde, si on a commis des fautes ou si on nous accuse même de quelque chose qui n'est pas, on va essayer de chercher un avocat qui va monter un dossier, qui va plaider notre cause. Dieu nous a donné un avocat, Jésus, qui plaide lui-même notre cause et il nous défend auprès du Père. C'est-à-dire que même devant le Père, lorsque nous avons commis une faute ou lorsque nous sommes coupables de quelque chose, ou alors quand l'ennemi vient pour essayer de nous faire croire des mensonges qui ne sont pas, Jésus est en train de rendre témoignage. Non, moi je l'ai porté à la croix. Non, papa, regarde l'œuvre, ça a été porté. Il a confessé ce péché, se repentit, c'était sur mon dos à la croix, c'est réglé, c'est bon. Nous avons un avocat, un défenseur. Donc, l'accusation n'a pas à avoir place contre nous. Il y a le témoignage de l'ennemi contre vous qui peut résonner dans vos cœurs, dans vos têtes, mais il y a aussi et surtout ce défenseur, le Saint-Esprit, qui, selon Romains 8, 14, témoigne à votre esprit. Le Saint-Esprit témoigne à votre esprit. C'est-à-dire que pendant que le diable témoigne en vous, mais il témoigne à votre tête, il témoigne à votre intelligence, il témoigne à vos pensées, t'as mal fait, t'es nul, tu vaux rien, le Saint-Esprit témoigne à votre esprit, au plus profond de vous-même, de ce qui est vrai. Il témoigne, ce défenseur vient vous dire, non, tu es précieuse, tu es aimée, tu es choisie, tu es juste, tu es acceptée par le Père, tu as été renouvelée, purifiée. Donc comment traiter l'accusation ? Faites taire, refusez les voix accusatrices. L'accusateur n'a pas accès à votre esprit au plus profond de vous-même. Lui témoigne dans vos pensées, dans vos sentiments. Quand il vient, vous refusez, vous chassez. Non, je refuse l'accusation. Et je m'appuie sur l'œuvre rédemptrice de Christ et le témoignage de Jésus en ma faveur. Quand vous vous sentez accusé, vous pouvez dire, j'ai un avocat auprès du Père, c'est Jésus. Vous n'avez même pas besoin de vous défendre et de vous expliquer vous-même. Vous rappelez à l'ennemi, qu'est-ce que tu fais là? Moi j'ai mon avocat. Vous savez, des fois quand c'est conflictuel, les gens disent, va voir mon avocat. Et là vous pouvez faire la même chose avec Claudia. Qu'est-ce que tu fais là? Va voir mon avocat. C'est déjà réglé. Et pire que ça, le jugement est déjà prononcé, vous avez été déclaré juste. Donc l'accusation se traite comme ça. Refusez les voix accusatrices. Je sais que c'est parfois difficile, les pensées sont là, etc., mais vous pouvez choisir ce que vous accueillez comme pensée. Et si vous vous sentez mal parce que vous pensez sans arrêt que vous êtes coupable de quelque chose, eh bien remplacez ça par la parole de Dieu, par la pensée de Christ. Dites que vous êtes juste, dites que vous êtes une nouvelle personne, dites que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient, dites qu'il l'a éliminé en le clouant à la croix, dites que Dieu a oublié vos péchés, il ne s'en souvient plus. Et de la même façon, quand on vous accuse de ça, mais tu me parles de quoi là? Même si vous vous en rappelez dans votre conscience, dans votre tête, entre guillemets, dans votre âme, vous avez vos souvenirs, mais vous en rappelez, mais vous n'êtes plus coupable de ces choses-là. Vous avez un avocat auprès du Père. Et maintenant, troisième point, la honte, et c'est certainement mon plus important, et c'est là que je veux vraiment attirer votre attention, parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre ici. La honte, c'est quelque chose de plus complexe. La honte se manifeste à travers nos émotions, une gêne, un malaise, une peur, et parfois le contraire. Quelqu'un qui va être exubérant à l'extrême ou qui va être agressif parce qu'il est mal avec lui-même. Elle se manifeste aussi à travers nos corps. Souvent, quelqu'un qui est dans la honte, il baisse les yeux, il marche la tête basse, il rougit facilement. Ou alors, au contraire, il est à l'extrême orgueilleux, il est quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre facilement. La honte se manifeste dans vos pensées. Sans arrêt en vous, ça parle, ça vous dit du mal à votre sujet. C'est ce qu'on a vu, c'est lié avec l'accusation. Et ça va s'exprimer dans votre comportement. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que la honte ne vient pas du fait d'avoir mal agi. Ça, c'est la culpabilité. Vous vous sentez coupable. Mais la honte installe en vous un sentiment que quelque chose ne va pas chez vous. La honte installe en vous la notion d'être indigne. La honte est un fléau beaucoup plus sournois qui retient les gens prisonniers, consciemment ou pas. L'accusation et la culpabilité sont liées à ce que nous avons fait ou à ce que nous faisons. Mais la honte porte sur ce que nous croyons à notre sujet. Et elle est souvent liée à ce que quelqu'un d'autre nous a fait. C'est un fléau qui agit et qui s'infiltre en profondeur en nous, orientant notre regard sur nous-mêmes et par extension sur notre environnement, les autres et même Dieu de façon erronée. À cause des événements passés, même si la culpabilité et l'accusation ont parfois été réglées, la honte vous habite toujours et vous retient d'avancer. Et ça, c'est une chose importante à comprendre. Quelquefois, vous n'êtes même plus coupable de quelque chose, vous n'êtes même plus accusé par la chose, parce que la culpabilité et l'accusation sont directement liées à ce que vous faites. Donc, si vous appliquez les très simples conseils que j'ai donnés, vous faites taire les voix accusatrices, vous faites référence à votre avocat, ça règle le problème de l'accusation. Et pour le problème de la culpabilité, vous vous repentez, et si vous vous repentez, vous êtes restauré, il n'y a plus de culpabilité. Et ça, souvent, c'est réglé. Mais la honte est une arme terrible de l'ennemi qu'il utilise dans nos vies, parce qu'à travers la honte, il n'est plus question de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait, mais il est question de ce que je suis ou de ce que je ne suis pas. Et là, c'est bien plus vicieux et dangereux, parce que ça porte sur mes croyances profondes, sur mon regard sur moi-même et sur les autres. Le mécanisme de la honte ne touche pas directement à ce qui se passe, mais à ce que je crois être ou à ce que je comprends. Et en fait, très souvent, la honte est liée avec les abus, que ce soit des abus verbaux, émotionnels, même spirituels, ou carrément, disons-le, des abus physiques ou des abus sexuels. Ces choses-là vont provoquer, quelqu'un va dire « je me sens coupable qu'il me soit arrivé ça », c'est possible, mais le pire fléau, la pire conséquence, c'est la honte que ça produit. Parce que lorsque vous subissez quelque chose injustement, ça produit la honte. Pourquoi ? Parce que ça s'est imposé à vous. Et le problème avec ça, c'est que lorsque quelqu'un est abusé, ça je ne sais pas pourquoi, c'est la nature humaine qui est faite comme ça, mais quand quelqu'un est abusé, il ne va même pas tellement accuser son agresseur, il va chercher chez lui ce qui ne va pas. Quand on vous abuse, vous cherchez ce qui ne va pas chez vous. Quand on vous abuse, il y a quelque chose chez moi qui ne marche pas. Qu'est-ce qui fait chez moi que les gens profitent de moi ? Qu'est-ce qui fait chez moi ? Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Ça, c'est une trahison même de l'ennemi qui essaie de vous faire croire que c'est vous qui n'êtes pas digne, que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui n'êtes bon à rien, que c'est vous qui n'allez que constamment encore ramasser les mêmes choses. Donc ça crée une honte. Ça vous enferme à l'intérieur. Ça vous fait souffrir. Et même si vous pouviez vous sentir soulagé par le fait de ne pas être coupable devant Dieu, la honte continue au fond de vous enfermer, de vous retenir. Et il y a beaucoup de gens qui ont été pardonnés, il y a des gens qui sont nés de nouveau, et des gens qui ont réussi à faire un pas et à dépasser la culpabilité, qui aujourd'hui ne se sentent plus forcément coupables d'un certain nombre de choses, mais il y a la honte qui est là au fond d'eux-mêmes. La honte, peut-être par rapport à des choses qu'on vous a faites, comme je l'ai dit, parfois la honte, à cause de votre cadre ou contexte familial dans lequel vous avez grandi et que vous avez été catalogué et étiqueté d'une façon, et non seulement l'acte en lui-même posait problème, mais c'est ce qu'il remettait en cause en vous. La honte, en fait, vous remet vous en cause et en question, et c'est quelque chose qui vient vous ronger vous-même en faussant et en orientant complètement votre image de vous-même. Et en fait, littéralement, la honte, ça veut dire rendre confus, désorienté. Ça veut dire ne pas arriver à distinguer quelque chose, et ça veut dire maudire ou bien prononcer un jugement. Donc le mot qui est utilisé pour la honte dans les Écritures, il veut dire confusion, désorienter, ne pas distinguer et maudire. Autrement dit, quelqu'un qui subit la honte, c'est quelqu'un qui est désorienté par rapport à lui-même, par rapport à sa propre image. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus que juste se sentir mal. Hein. C'est autre chose. C'est quelque chose qui vous fausse complètement. Votre image est faussée. Vous ne comprenez pas pourquoi, comment, pourquoi les choses arrivent, comment elles viennent, etc. Parce qu'il y a des liens qui ne se font plus. Vous êtes jugement, vous êtes même jusqu'à la ruine. Le mot va jusqu'à la ruine. C'est quelque chose qui vous ruine de l'intérieur, qui vous détruit complètement. La honte. Et on l'a vu dans notre dernier message, Mephibosheth avait terriblement honte. Vous vous rappelez quand le roi David l'a fait chercher? Déjà, la première chose, il était caché au loin dans un village où personne, enfin quelqu'un de son rang n'aurait certainement pas dû être coincé là-bas. Quand on est venu le chercher, il y avait certainement une forte inquiétude qu'on venait le chercher pour lui faire du mal. Et quand il arrive dans le palais devant le roi, Mephibosheth s'étale par terre. Et rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez ces paroles terribles de Mephibosheth. Il a dit, mais pourquoi me considères-tu, moi qui ne suis qu'un chien mort ? Ça, c'est typiquement la honte. Ça, c'est pas de la culpabilité. La culpabilité, c'est je n'aurais fait que du mal. La honte porte atteinte à vous-même, à ce que vous êtes, à votre intégrité. Je ne suis qu'un chien mort. Quelqu'un qui dit une chose pareille, c'est que sa perception, son image, sa compréhension est complètement faussée. Comment quelqu'un peut-il se comparer à un chien mort ? Et pourtant, c'est ce qui nous arrive. Et cette honte, ces choses-là qui nous ruinent et qui nous écrasent, vient à travers la culpabilité et l'accusation, si nous ne les traitons pas et si nous y laissons accéder. Accusation, des gens qui vous disent « toi tu vaux rien, tu ne deviendras jamais rien, toi tu es nul, toi tu n'es qu'un sac poubelle, toi tu n'es bon à rien, toi tu n'as pas d'intelligence, toi j'aurais préféré que tu ne naisses même pas ». Vous savez, il y a beaucoup de gens pour qui des choses pareilles ont été dites, et qui du coup sont un mélange entre de l'accusation et aussi une forme de trahison, d'abandon et d'abus, parce que, disons-le, très malheureusement, ces paroles viennent souvent de nos propres parents, des gens qui nous sont le plus proches. C'est un abus. Et sans parler des actes qui peuvent accompagner ça, mais rien que des paroles comme celles-là. Et quand vous avez entendu des choses comme ça de vos proches, ou plus largement de votre cas, du cas dans lequel vous évoluiez, quand vos copains d'école, quand vos enseignants, quand d'autres personnes vous disent des choses comme ça, c'est rentré en vous et ça produit la honte. La honte. ça change votre cadre de référence, ça fausse votre image. Et alors vous avez accepté ces choses-là et c'est ce qui devient votre regard. C'est comme si vous portez des lunettes, mais qui ne sont pas les bonnes. Vous ne voyez plus ce qui est, vous voyez ce qu'on a voulu vous faire croire qui était. Vous voyez ce que les événements, les circonstances et les abus ont produit comme fausse image. Mais vous devez réaliser que ces choses-là sont erronées. C'est complètement à côté, ce n'est pas la réalité. Ce que vous voyez, ce que vous ressentez n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit à votre sujet. La vérité, c'est le témoignage du Saint-Esprit, nous l'avons vu face à l'accusation dans votre esprit, qui dit « tu es fils et fille de Dieu ». Romains 8, 14, l'Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. L'Esprit témoigne à votre esprit que vous êtes son chéri, sa bien-aimée, celui-celle qu'il connaît, qui l'a créé, pour qui il a formé des plans. Donc comment être libéré de la honte? Eh bien, renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 5. Il est écrit « Nous renversons les forteresses et toute hauteur, tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous appelons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Donc quand la honte est entrée au fond de vous-même, il ne suffit plus seulement de dire « je ne veux plus entendre de mauvaises paroles ». Il va falloir renverser ces murailles, ces choses qui ont été construites en vous en changeant les raisonnements, les pensées. Romains 12, verset 2 nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Vous allez dire « Mais comment faire puisque c'est en moi, ça fait partie de moi ?» Eh bien, réalisez qu'il y a ce que vous disent vos pensées, mais il y a ce vrai témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit. Dans votre esprit. Vous n'êtes pas ce que vos pensées vous disent. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Vous êtes ce que l'Esprit-Saint témoigne à votre esprit. Donc, renverser les forteresses, différencier ce que vous faites et plus encore ce qu'on vous a fait de ce que vous êtes. Différencier ce que dit votre pensée de ce que dit votre cœur. Mais vraiment, ça fait la différence entre ce que vous faites vous-même et ce qu'on vous a fait et celui que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous faites, surtout quand vous ne faites pas la bonne chose. Et même quand vous faites la bonne chose, vous n'êtes même pas ça. C'est l'œuvre de la grâce et de Jésus-Christ en vous qui produit les œuvres bonnes. Vous n'êtes pas ce que vous faites. L'Écriture dit le salut s'obtient non par les œuvres, mais par la foi. Vous n'êtes pas ce que vous faites, et encore moins ce qu'on vous a fait. Très souvent, on vous a fait quelque chose et vous vous identifiez à ça. Moi, je suis celui-là qui n'est bon à rien d'autre que telle chose. Ou je suis celle-là à qui on a fait telle chose. C'est comme si c'était vous, ce n'est pas vous. Vous êtes la créature merveilleuse de Dieu. Vous êtes son bien-aimé, sa chérie, vous n'êtes pas une erreur. Vous savez, alors souvent ça amène les gens à dire « Moi je ne suis pas assez comme ci, moi je n'ai pas cela, moi je ne vaux rien de plus que cela. » Mais l'erreur que vous avez pu faire, une mauvaise réaction, ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est ce que Dieu dit à votre sujet. Ce qui vous définit, c'est le témoignage de l'Esprit dans votre cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, Éphésiens 2, 8. Et cela ne dépend pas de vous, dit l'Écriture. Et quand l'Écriture dit sauver, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la dignité, il y a toutes ces choses-là qui viennent avec, assainies. Donc, renversez les forteresses, faites la différence entre ce que vous faites ou qui vous êtes et fait ce que vous êtes. Et une autre chose, vivez au présent. Vivez au présent. Vivez au présent. Ne vivez pas constamment dans le passé, de ce qu'il y avait, de ce que vous avez fait, de ce qu'on vous a fait, de ce qui était. Et ne vivez pas non plus constamment dans l'avenir comme espérant qu'un jour peut-être ça ira mieux, donc vous regardez tout le temps là-bas, mais pendant ce temps, vous êtes bien là, ici et maintenant. La seule chose qui existe vraiment, c'est ici et maintenant. Vous savez, ce qu'il y avait même il y a 5 minutes, ça n'existe plus. Et ce qui sera dans 5 minutes, ça n'existe pas encore. Donc si vous êtes constamment coincé dans quelque chose qui était, vous êtes dans quelque chose d'irréel, d'imaginaire, parce que c'est fini, ça n'existe plus. Et si vous êtes seulement constamment dans ce qui sera demain, vous vivez encore dans un imaginaire. La seule chose qui compte, et là où vous pouvez faire une différence, c'est ici et maintenant. C'est le présent. C'est ce qui se passe là, maintenant. Régulièrement, l'Écriture dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Régulièrement, elle dit, c'est aujourd'hui la délivrance. Elle dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. C'est ici, c'est maintenant. Comme j'ai dit avant, même si vous avez une mémoire de ce qui s'est arrivé, cessez de subir ce bourreau intérieur qui vous rappelle. Tu te rappelles il y a 10 ans, tu te rappelles il y a 20 ans. moi je me rappelle, mais celui qui témoigne à mon esprit me dit qu'il ne s'en souvient plus, et mon avocat s'est occupé de ce dossier, donc je ne m'en occupe plus. Il ne s'en souvient plus. Un autre point, mais que je ne vais pas développer, parce qu'on l'a fait partiellement, apprenez à vous apprécier et recevez l'amour. Recevez l'amour de Dieu, recevez l'amour des autres. Et ça, on l'a vu dans, entre autres dans Traiter l'infériorité. Donc, vous pourrez, ils ne sont pas encore sur Internet, ils y seront bientôt, mais vous pourrez revenir à ces enseignements aussi pour compléter. Et ça, c'est l'une des clés. Apprenez à vous apprécier et recevez l'amour. Et comme encore tout à l'heure, dans le temps qu'on a eu par inspiration, il dit, ne l'obtenez pas, ne le méritez pas, recevez-le. Recevez-le. Et un dernier point, et non des moindres, qui est une excellente nouvelle si vous êtes dans la honte, puisqu'on a vu que culpabilité et accusation, on peut faire quelque chose contre. La honte, c'est beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui nous a déjà rendu esclaves. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'onction fait éclater les jougs. L'onction fait éclater les jougs. Ésaïe 10, 27. Un joug, c'est quoi? C'était une pièce de bois qu'on mettait sur les animaux pour tirer les appareils agricoles notamment. Et donc, c'est quelque chose qui pesait sur leurs épaules hein, et eux, ils tiraient les poids. Et il y a cette image régulièrement dans l'Écriture que le joug, c'est quelque chose qui s'appesantit sur vous. Et on l'a vu, et vous savez, ça se voit même physiquement. Quelqu'un qui a honte, il est comme ça. Il est courbé, il n'ose pas trop vous regarder. Il regarde en bas, il a un joug sur ses épaules. Mais l'Écriture dit que l'onction, un petit peu plus loin peut-être, voilà, la graisse, alors la graisse c'est une image pour l'onction, on voit dans l'Écriture, elle soit un pareil entre la graisse ou l'huile et en fait l'action du Saint-Esprit ou la puissance de Dieu, hein, puisque la graisse ne casse pas une pièce de bois, d'accord, si on prend littéralement. Par contre, la graisse, l'onction fera éclater le joug. Et j'aime le éclater. C'est pas juste il l'enlève, il l'allège, il le fait éclater. Il le fait exploser. L'onction du Saint-Esprit fait éclater le joug. Ce qui pesait sur quelqu'un, la honte qui pesait sur toi, ce qui te bloquait, qui te retenait, l'onction du Saint-Esprit le fait éclater. Non seulement il l'enlève, mais il le détruit. Il le détruit. Ésaïe 54, verset 4, on va juste regarder encore deux promesses là-dessus, et puis on va être arrivé. Ésaïe 54, ça va? Ésaïe 54, verset 4. Il dit, n'aie pas peur car tu ne seras plus couverte de honte. Ne rougis pas car tu ne seras plus déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Et c'est une prophétie qui a été donnée d'abord sur Israël, bien sûr, mais c'est une prophétie qui résonne et qui a son application par rapport à l'œuvre que Christ allait accomplir dans notre vie. Et le Seigneur dit à quelqu'un qui l'entend ce soir, tu ne seras plus couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence. D'autres versions disent de ton enfance, d'autres disent de ta jeunesse. On sait en tout cas que c'est en rapport avec ces périodes-là. Et d'ailleurs, souvent, c'est dans ces périodes-là que beaucoup de choses s'installent en nous. Il dit, tu oublieras la honte et tu ne te souviendras plus de l'opprobre, c'est la honte aussi. Et je veux vraiment souligner ces choses-là. L'onction fait éclater le joug et tu oublies. Vous vous rendez compte? J'allais dire si vous pouviez, mais c'est pas si vous pouviez, c'est vous allez être libre de la honte et du joug, il va éclater et vous ne vous en souviendrez même plus. Il y a des choses, les gens vivent toute leur vie avec ça, avec la honte, avec quelque chose qui les bloque, qui les retient et qui pourrit, disons-le, qui pourrit la vie de quelqu'un, qui l'empêche d'exister, d'être lui-même. Mais Jésus a envoyé son esprit et sa puissance pour faire éclater le joug. Et regardez encore Ésaïe 61, verset 7. Parce que Dieu ne se contente pas de vous restaurer, Dieu fait toujours bien plus. Ésaïe 61, verset 7. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, Ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Là encore, c'est une prophétie d'abord sur Israël, mais Dieu dit ça à quelqu'un. Tu ne te souviendras plus de la honte, tu n'auras plus à rougir. Au lieu de la honte, tu auras une double part. Tout l'amour que tu n'as pas eu, il va te donner le double. Tout ce que tu aurais dû obtenir qu'on t'a pris, parce qu'on t'a amenuisé, que tu l'as accepté par manque d'assurance et à cause de la honte, tu auras le double. Tu auras le double de ce qu'on t'a volé, tu auras le double d'affection, tu auras le double de relations productives, tu auras le double des biens dont tu as été privé, tu auras le double de la liberté dont tu n'as pas pu jouir, tu auras le double de personnes, tu auras le double, dit l'Écriture. Et c'est un principe qui revient souvent. Job a tout perdu, mais Dieu l'a restauré et l'a restauré au double de ce qu'il avait. Ici, Dieu dit, peut-être tu étais sous la honte, je te libère de la honte et je te donne le double de ce que tu n'avais pas. Et Jésus va le confirmer en disant dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc Jésus applique, il a sur lui la puissance, l'onction du Saint-Esprit pour libérer le captif. Celui qui a subi la honte, et je crois qu'il y a des domaines, soyons sincères, dans peut-être chacune de nos vies. Ou même sur des petites choses, il y a de la honte qui a demeuré. Dieu veut libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs et il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. À cause de l'onction. L'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Jésus a dit à ses disciples qu'ils feront les mêmes choses que lui et des plus grandes. Et il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc si Jésus avait sur lui l'onction pour libérer les captifs et pour guérir les cœurs brisés, nous avons, nous disciples de Jésus, l'onction, la puissance du Saint-Esprit pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs blessés. Et c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Il y a toute forme d'aide qu'on peut donner, mais il y a un domaine, et notamment celui de la honte, qui va beaucoup plus loin que juste comprendre une vérité et puis prendre les bonnes habitudes pour s'en détacher. La honte a posé sur vous un joug. La honte vous a bloqué. Il y a des personnes qui peut-être savent qu'elles sont déjà pardonnées, mais jusqu'à maintenant, il y a quelque chose en vous qui vous retient. Ce quelque chose, c'est la honte. Ce quelque chose, c'est pas un problème avec votre pardon. Ce quelque chose, c'est pas un manque de repentance. Vous dites constamment, mais je sais pas, j'ai demandé pardon, mais je me sens toujours encore coupable. En fait, c'est même plus la culpabilité. Là, c'est la honte qui vous retient. Parce que si c'est la culpabilité, il vous suffit de vous repentir et de passer à autre chose, ce serait réglé. Si ce n'est pas réglé, c'est parce qu'il y a des racines beaucoup plus profondes, des racines de honte. Le Seigneur dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de la délivrance. Il y a des personnes qui ont essayé de faire tellement de choses, mais Jésus lui a brisé le pouvoir de la honte. Jésus, par sa puissance, libère les captifs, il guérit les cœurs brisés. La parole déclare que l'onction brise les jougs. Et ce soir, l'onction du Saint-Esprit est présente ici. L'onction du Saint-Esprit est disponible. Cette onction, cette grâce, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et je veux vraiment encourager chacun à recevoir cette parole. Et si l'accusation se présente, parce que ça nous arrivera toujours, ça, eh bien, nous savons maintenant que nous avons un avocat. Donc, celui qui nous accuse, cette voix qui nous accuse, nous la renvoyons vers l'avocat. Si la culpabilité est là, vérifions notre cœur. Est-ce que j'ai fait une faute? Je me repens, la culpabilité doit partir. Si elle n'est pas partie, asseyez-vous dans la vérité de la parole jusqu'à ce que cette condamnation s'enlève. Mais la honte n'a aucun droit dans votre vie. La honte vous détruit, la honte vous bloque, la honte vous empêche d'avancer, la honte vous tient captif. Et Jésus est venu libérer les captifs. Vous n'avez pas à subir, vous n'avez plus à vivre dans la honte. Et le Seigneur dit, ce soir je te libère de la honte. Je te libère de la honte. Et peut-être si quelqu'un, peut-être même chacun d'entre nous, mais je voudrais vraiment qu'on pose un acte aussi maintenant par rapport à ça. Et si cette parole résonne quelque part, ben peut-être juste venez ici, on va prier un moment et on va invoquer cette onction qui brise les jougs. Vous savez, quand Dieu parle, il veut accomplir une chose et c'est bon de répondre à la parole de Dieu. Et moi, je crois vraiment que Dieu est à l'œuvre et qu'il va accomplir selon sa parole.